Chapitre 12. Je n'étais pas fort rassurée sur le compte du jeune homme pâle. Plus je pensais au combat, plus je me rappelais les traits ensanglantés de ce jeune homme, plus je sentais qu'il devait m'être fait quelque chose pour l'avoir mis dans cet état. Le sang de ce jeune homme retombait sur ma tête, et la loi le vengerait. Sans avoir une idée bien positive de la peine que j'encourais, il était évident pour moi que les jeunes gars du village ne devaient pas aller dans les environs ravager les maisons des gens bien posés et rosser les gens studieux de l'Angleterre sans attirer sur eux quelque punition sévère. Pendant plusieurs jours, je restai enfermé à la maison et je ne sortis de la cuisine qu'après m'être assuré que le policeman du comté n'était pas à mes trousses, tous prêts à s'élancer sur moi. Le nez du jeune homme pâle avait taché mon pantalon et je profitai du silence de la nuit pour laver cette preuve de mon crime. Je m'étais écorché les doigts contre les dents du jeune homme et je torturais mon imagination de mille manières pour trouver un moyen d'expliquer cette circonstance accablante quand je serais appelé devant les juges. Quand vint le jour de retourner au lieu témoin de mes actes de violence, mes terreurs ne connurent plus de bornes. Les envoyés de la justice venus de Londres tout exprès ne seraient-ils pas en embuscade derrière la porte? Miss Havisham ne voudrait-elle pas, elle-même, tirer vengeance d'un crime commis sur sa maison, et n'allait-elle pas se lever sur moi, armée d'un pistolet, et m'étendre mort à ses pieds? N'aurait-on pas soudoyé une bande de mercenaires pour tomber sur moi dans la brasserie et me frapper jusqu'à la mort? J'avais, je dois le dire, une assez haute opinion du jeune homme pâle pour le croire étranger à toutes ces machinations. Elle se présentait à mon esprit, ourdie par ses parents, indigné de l'état de son visage et excité par leur grand amour pour ses traits de famille. Quoi qu'il en soit, je devais aller chez Miss Havisham, et j'y allais. Chose étrange, rien de notre lutte n'avait transpiré, on n'y fit pas la moindre allusion, et je n'aperçus pas le plus petit homme, jeune ou pâle. Je retrouverai la même porte ouverte, j'explorai le même jardin, je regardai par la même fenêtre, mais mon regard se trouva arrêté par des volets fermés intérieurement. Tout était calme et inanimé. Ce fut seulement dans le coin où avait lieu le combat que je pus découvrir quelques preuves de l'existence du jeune homme. Il y avait là des traces de sang figé, et je les couvris de terre pour les dérober aux yeux des hommes. Sur le vaste palier qui séparait la chambre de Miss Havisham de l'autre chambre où était dressée la longue table, je vis une chaise de jardin, une de ces chaises légères montées sur des roues et qu'on pousse par derrière. On l'avait apportée là depuis ma dernière visite, et dès ce moment, je fus chargée de pousser régulièrement Miss Havisham, dans cette chaise, autour de sa chambre et autour de l'autre, quand elle se trouvait fatiguée de me pousser par l'épaule. Nous faisions ces voyages d'une chambre à l'autre sans interruption, quelquefois pendant 3 heures de suite. Ces voyages ont dû être extrêmement nombreux, car il fut décidé que je viendrais tous les 2 jours, à midi, pour remplir ces fonctions, et je me rappelle très bien que cela dura au moins 8 ou 10 mois. À mesure que nous nous familiarisions l'une avec l'autre, Miss Havisham me parlait davantage et me faisait quelquefois des questions sur ce que je savais et sur ce que je comptais faire. Je lui dis que j'allais être l'apprenti de Joe, que je ne savais rien et que j'avais besoin d'apprendre toutes choses avec l'espoir qu'elle m'aiderait à atteindre ce but tant désiré. Mais elle n'en fit rien. Au contraire, elle semblait préférer me voir rester ignorant. Elle ne me donnait jamais d'argent, mais seulement mon dîner. Et elle ne parla même jamais de me payer mes services. Estelle était toujours avec nous. C'était toujours elle qui me faisait entrer et sortir, mais elle ne m'invitait plus jamais à l'embrasser. Quelquefois elle me tolérait, d'autres fois elle me montrait une certaine condescendance. Tantôt elle était très familière avec moi, tantôt elle me disait énergiquement qu'elle me haïssait. Mais Savissa me demandait quelquefois tout bas et quand nous étions seuls. « Pip, n'est-elle pas de plus en plus jolie ?» Et quand je lui répondais « Oui », ce qui était vrai, elle semblait s'en réjouir secrètement. Aussi, tandis que nous jouions aux cartes, Miss Havisham nous regardait avec un bonheur d'avare, quels que puissent être les caprices d'Estelle. Et quand ces caprices devenaient si nombreux et si contradictoires que je ne savais plus que dire ni que faire, Miss Havisham l'embrassait avec amour et lui murmurait dans l'oreille quelque chose qui sonnait comme ceci. « Désespérez-les tous, mon orgueil et mon espoir, désespérez-les tous, sans remords. » Il y avait une chanson dont Joe se plaisait à fredonner des fragments pendant son travail. Elle avait pour refrain « Le vieux Clem ». C'était, à vrai dire, une singulière manière de rendre hommage à un saint patron, mais je crois bien que le vieux Clem lui-même ne se gênait pas beaucoup avec ses forgerons. C'était une chanson qui imitait le bruit du marteau sur l'enclume, ce qui excusait jusqu'à un certain point l'introduction du nom vénéré du vieux Clem. À la fin, on devait frapper son voisin d'un coup de poing en criant « Battez, battez, vieux Clem ! Soufflez, soufflez le feu, vieux Clem ! Grondez plus fort et lancez-vous plus haut !» Un jour, Miss Havisham me dit, peu après avoir pris place sur sa chaise roulante et en agitant ses doigts avec impatience. « La la la, chante !» Je me mis à chanter tout en poussant la machine. Il arriva qu'elle y prit un certain goût et qu'elle répéta tout en roulant autour de la grande table et de l'autre chambre. Souvent, même Estelle se joignait à nous. Mais nos accords étaient si réservés qu'à nous trois, nous faisions moins de bruit dans la vieille maison que le plus léger souffle du vent. Qu'allais-je devenir avec un pareil entourage? Comment empêcher son influence sur mon caractère? Faut-il s'étonner si, de même que mes yeux, mes pensées étaient éblouies quand je sortais de ces chambres obscures pour me retrouver dehors à la clarté du jour? Peut-être me serais-je décidée à parler à Joe du jeune homme pâle si je ne m'étais pas lancée d'abord dans ce dédale d'exagération monstrueuse que j'ai déjà avoué. Je sentais parfaitement que Joe ne manquerait pas de voir dans ce jeune homme pâle un voyageur digne de monter dans le carrosse en velours noir. En conséquence, je gardais sur lui le silence le plus profond. D'ailleurs, la frayeur qui m'avait saisie tout d'abord en voyant Miss Havisham et Estelle se concerter ne faisait qu'augmenter avec le temps. Je ne mis donc toute ma confiance qu'en Biddy, et c'est à elle seule que j'ouvris mon cœur. Pourquoi me parut-il naturel d'agir ainsi, et pourquoi Biddy prenait-elle un intérêt si grand à tout ce que je lui disais? Je l'ignorais alors, bien que je pense le savoir aujourd'hui. Pendant ce temps, les conciliabules allaient leur train dans la cuisine du logis, et mon pauvre esprit était agité et aigri des ennuis et des désagréments qui en résultaient toujours. Cette âne de Pumbochuk avait coutume de venir le soir pour causer de moi et de mon avenir avec ma sœur, et je crois réellement, avec moins de repentir que je n'en devrais éprouver, que si alors j'avais pu ôter la clavette de l'essieu de sa voiture, je l'eusse fait avec plaisir. Ce misérable homme était si borné et d'une faiblesse d'esprit telle qu'il ne pouvait parler de moi et de ce que je deviendrais sans m'avoir devant lui, comme si cela eût pu y faire quelque chose, et il m'arrachait ordinairement de mon escabeau en me tirant par le collet de ma veste et me faisait quitter le coin où j'étais si tranquille pour me placer devant le feu comme pour me faire rôtir. Il commençait ainsi en s'adressant à ma sœur.
« Voici un garçon, ma nièce, un garçon que vous avez élevé à la main. Tiens-toi droit, mon garçon. » Relève la tête et ne sois pas ingrat pour eux comme tu l'es toujours. Voyons, ma nièce, qu'y a-t-il à faire pour ce garçon ?
Et alors, il me rebroussait les cheveux, ce dont je l'ai déjà dit, je n'ai jamais témoigné la moindre connaissance à personne, et me tenait devant lui en me tirant par la manche. Spectacle bête et stupide qui ne pouvait être égalé en bêtise et en stupidité que par M. Pumbochuk lui-même. Ma sœur et lui se livraient alors aux supputations les plus absurdes sur Miss Havisham, et sur ce qu'elle ferait de moi et pour moi. Je finissais toujours par pleurer de dépit, et j'avais toujours les peines du monde à ne pas me jeter sur lui pour le battre. Pendant ces conversations, chaque fois que ma sœur m'interpellait, cela me causait une douleur aussi forte que si l'on m'eût arraché une dent, et Pumbochuk, qui se voyait déjà mon patron, promenait sur moi le regard dépréciateur d'un entrepreneur qui se voit engagé dans une affaire peu lucrative. Joe ne prenait aucune part à ces discussions. Mais Mrs. Joe lui adressait assez souvent la parole, car elle voyait clairement qu'elle n'était pas d'accord avec lui relativement à ce qu'on ferait de moi. J'étais en âge d'être l'apprenti de Joe, et toutes les fois que ce dernier, assez pensif auprès du feu, tenait le poker entre ses genoux et dégageait la cendre qui obstruait les barres inférieures du foyer, ma sœur devinait facilement dans cette innocente action une protestation contre ses idées. Elle ne manquait jamais alors de se jeter sur lui, de le secouer vigoureusement et de lui arracher le poker des mains, de sorte que ces débats avaient toujours une fin orageuse. Tout à coup, et sans le moindre prétexte, ma sœur se retournait sur moi, me secouait rudement et me jetait ses mots à la figure.
« Allons, en voilà assez! Va te coucher, tu nous as donné assez de peine pour une soirée, j'espère !»
Comme si c'était moi qui les eusse priés en grâce de tourmenter ma pauvre existence. Cet état de choses dura longtemps, et il eût pu durer plus longtemps encore, mais un jour que Miss Havisham se promenait, comme à l'ordinaire, en s'appuyant sur mon épaule, elle s'arrêta subitement et, se penchant sur moi, elle me dit avec un peu d'humeur.
« Tu deviens un grand garçon, Pip !»
Je pensais que je devais lui faire entendre, par un regard méditatif, que c'était sans doute le résultat de circonstances sur lesquelles je n'avais aucun pouvoir. Elle n'en dit pas davantage pour cette fois, mais elle s'arrêta bientôt pour me considérer encore, et un moment après, elle recommença de nouveau en fronçant les sourcils et en faisant la mine. Le jour suivant, quand notre exercice quotidien fut fini et que je l'eus reconduite à sa table de toilette, elle appela mon attention au moyen du mouvement impatient de ses doigts.
« Redis-moi donc le nom de ton forgeron. »«
Joe Gavery, madame. »«
C'est chez lui que tu devais entrer en apprentissage ?»«
Oui, Miss Havisham. » »«
Tu aurais mieux fait d'y entrer tout de suite. Crois-tu que Gavery consente à venir ici avec toi et à porter ton acte de naissance ?»
Je répondis que Joe ne manquerait pas de se trouver très honoré de venir.
« Alors qu'il vienne. »
« À quelle heure voulez-vous qu'il vienne, Miss Havisham ?»«
Là, là, je ne connais plus rien aux heures. » Mais qu'elle vienne bientôt, et seule avec toi.
Lorsque, le soir, je rentrai à la maison et que je fis par radio du message dont j'étais chargée pour lui, ma sœur monta sur ses grands chevaux et s'exalta plus que je ne l'avais encore vue. Elle nous demanda si nous la prenions pour un paillasson, tout au plus bon pour essuyer mes souliers, et comme nous osions en user ainsi avec elle, et pour quelle société nous avions l'amabilité de la croire faite. Quand elle eut épuisé ce torrent de questions et d'injures, elle éclata en sanglots, et jeta un chandelier à la tête de Joe, mit son tablier de cuisine, ce qui était toujours un très mauvais signe, et commença à tout nettoyer avec une ardeur sans pareille. Non contente d'un nettoyage à sec, elle prit un seau et une brosse, et fit tant de gâchis qu'elle nous força à nous réfugier dans la cour de derrière. Il était 10 heures du soir quand nous nous risquâmes à rentrer. Alors ma sœur demanda à brûle-pourpoint à Joe pourquoi il n'avait pas épousé une négresse. Joe ne répondit rien, le pauvre homme, mais il se mit à caresser ses favoris de l'art le plus piteux du monde, et il me regardait, comme s'il pensait réellement qu'il eût tout aussi bien fait.